Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Je m'appelle David et je réside en Corée du Sud depuis plus de 12 ans. Tous les week-ends, je vous propose un épisode sur les tendances en Corée, le tourisme, les faits de société, le monde culturel ou l'histoire. Si la Corée vous intéresse pour la visiter ou bien pour y vivre, ou tout simplement parce que vous êtes curieux, alors ce podcast est fait pour vous. Ce podcast, il se déguste comme un club sandwich dans le TGV ou un samgakimbap dans un GS25, comme on dit ici. On ne peut pas s'arrêter tellement c'est bon. Le naufrage du Sewol, un drame humain et un ouragan politique. Il y a 9 ans, un ferry transportant du cargo et 476 personnes depuis le port d'Incheon jusqu'à l'île de Jeju, a coulé. Le monde entier a pu lire des articles et voir des images de ce jour tragique. Cependant, il faut avoir vécu en Corée à ce moment-là pour avoir une idée du traumatisme indicible qui s'est alors emparé du pays. Il ne s'agissait en effet pas d'un simple tour du destin ni d'un caprice de la nature, aussi terrible que cela ait pu être, mais en réalité, d'un événement prévisible, ce jour-là ou un autre, aux responsabilités humaines indéniables et aux conséquences politiques inattendues. Le funeste jour du 16 avril 2014, les premières informations ont commencé à atteindre le public vers 9h du matin. Évidemment, elles étaient forcément fragmentaires, mais pas seulement. Il a été dit, dans un premier temps, que tous les passagers avaient été sauvés, au grand soulagement des Coréens. Cependant, au fil de la journée, il est devenu évident que c'était douloureusement faux, et cet accident a alors pris les proportions d'une réelle catastrophe nationale aux causes diverses. La population, rivée aux écrans de télévision et aux réseaux sociaux, voyait se dérouler une journée de cauchemar glissant inexorablement vers l'épouvantable et dont chaque bulletin d'information était suivi avec effroi, rage, incompréhension, choc, affolement et impuissance. Les causes. Avant d'être racheté et baptisé le Sewol, 2 ans auparavant, ce ferry s'appelait le Maninowe, qui signifie « sur les vagues ». Battait pavillon japonais et était déjà en service sans problème depuis 18 ans. Le nouvel armateur a alors fait procéder à des travaux de rénovation afin d'augmenter ses bénéfices d'exploitation. En particulier, 2 ponts de couchettes supplémentaires ont été ajoutés, provoquant un surpoids important du bateau. Malgré l'accord des autorités de régulation, les travailleurs du chantier naval avaient pourtant prévenu que cela accroîtrait les risques d'embarquer. Cependant, ces mêmes autorités avaient tout de même émis des règles avant autorisation, en particulier une augmentation du ballast d'un quart, ainsi qu'une réduction de la capacité de cargo d'un tiers, règles qui ont été impudemment bafouées par l'armateur. Cacher l'assise plus basse du bateau, due au surpoids des travaux, et aussi à l'ajout, après inspection et sans autorisation ni déclaration, de quelques dizaines de tonnes de marbre, le propriétaire a fait réduire de plus de moitié la quantité de ballast, qui est l'eau contenue dans des réservoirs internes servant à maintenir la stabilité d'un bateau, modifiant ainsi son centre de gravité et compromettant sa flottabilité. Il a été par la suite révélé que le certificat de navigation délivré par le service de vérification et certification, Korean Register of Shipping, l'avait été au vu de documents falsifiés. Ces travaux se sont achevés 1 an et 2 mois avant le naufrage. Il est à noter que l'organisme de régulation maritime regroupait des opérateurs privés de cette industrie, ce qui pose bien entendu des questions quant à l'indépendance et donc l'impartialité des contrôles. Il a été dit qu'il n'était pas rare que les officiels chargés des vérifications de sécurité soient invités à des repas somptueux ou bénéficient d'autres cadeaux. Ces pratiques sont bien connues pour émousser quelque peu le sens de l'observation ainsi que celui du devoir. Cela expliquerait pourquoi, Malgré ces modifications non réglementaires, personne n'a rien remarqué de ces manquements criminels. Lors de son voyage final, la charge réelle du cargo était plus de deux fois supérieure au maximum autorisé, tandis que le ballast ne représentait que 40% de ce qui avait été préconisé. Certains chiffres donnent même un cargo trois fois plus important qu'autorisé et une quantité de ballast quatre fois moindre que recommandé. En tout état de cause, les conditions d'une tragédie étaient donc réunies, d'autant que le Sewol, parti en retard, forçait l'allure pour rattraper le temps. Cela, il faut ajouter un manque de sérieux incompréhensible dans l'arrimage des conteneurs, camions et autres véhicules. Le déroulement. Après avoir longé la côte occidentale de la péninsule, puis ayant atteint l'extrême pointe sud-ouest, face à des courants violents et avec un marin peu expérimenté à la barre, alors que le capitaine se reposait dans sa cabine, le ferry a effectué des manœuvres trop brusques. Ces changements de direction non contrôlés ont alors entraîné le glissement du cargo, très mal arrimé, provoquant ainsi un déséquilibre du bateau, une extinction des lumières dans les minutes suivantes, puis son chavirage en 2 heures et demie. Durant cette période, d'autres erreurs et manquements graves se sont produits. On rapporte que le premier appel de détresse est venu d'un jeune passager faisant partie du groupe de lycéens et non de l'équipage. Lorsque ce dernier l'a finalement émis 3 minutes plus tard, il a joint les autorités de Jeju et non celles de la zone qu'il occupait à ce moment-là. Le lycéen en question a perdu la vie ce jour-là. Après que le capitaine et les officiers eurent rejoint le poste de pilotage, et malgré la situation d'urgence évidente, avec de l'eau commençant à envahir le navire de façon incompréhensible, des ordres ont été donnés aux passagers pour qu'ils demeurent dans leur cabine. Cela était contraire aux consignes du manuel de sécurité. Les Coréens, respectant en général l'autorité, ont obéi. L'équipage, n'ayant de façon tout aussi inexplicable pas reçu de formation aux situations d'urgence, ne s'est pas montré d'un grand secours. Sur instruction insistante des gardes-côtes, des ordres d'évacuation ont finalement été lancés, mais ce, seulement près d'une heure après le début du naufrage. Seuls 150 passagers ayant désobéi aux ordres initiaux ou ayant entendu ce message, dont on n'est pas certain qu'il ait été reçu partout cause d'avaries de divers systèmes, ont pu sauter à l'eau et ont été pour la plupart sauvés par des bateaux de pêche et les bâtiments de secours. Les autres étaient sans doute déjà piégés par les eaux dans leurs cabines et les coursives. Les pêcheurs auraient apparemment sauvé plus de vies que les services officiels ce jour. Contrairement à la loi, le capitaine, lui, ainsi que quelques officiers, ont été les premiers à évacuer ce tombeau, s'enfonçant progressivement dans un sinistre engloutissement sans retour. Pendant ce temps, les images de cette catastrophe atteignaient de plein fouet une population tétanisée qui assistait à cet événement aux proportions de plus en plus dramatiques, sans comprendre la désorganisation et l'inefficacité des opérations de sauvetage. Il semble que seuls 3 membres d'équipage aient fait honneur à leur devoir et tenté d'aider les passagers en détresse. Ils ont payé de leur vie leur noble sacrifice. Pendant ce temps, des lycéens terrorisés envoyaient des messages d'adieu déchirants à leurs proches et d'autres filmaient la panique, les supplications et appels au secours poignants de ces centaines de jeunes encore dans l'enfance qui allaient périr d'une lente et indicible agonie et qui comprenaient alors trop tard l'horreur de leur funeste destin. Ces lycéens insouciants, qui comme tous les adolescents aimaient apparaître plus âgés et matures, révélaient dans leurs derniers instants toute leur fragilité et leur besoin d'être protégés, maternés et secourus. L'appât vulgaire du gain, l'égoïsme criminel, l'ignoble lâcheté, l'amateurisme impardonnable de certains adultes les ont impitoyablement condamnés à mourir ce jour-là. C'est cela aussi qui a choqué, le sacrifice d'une partie de l'avenir de la Corée. Les parents ne devraient jamais voir leurs enfants disparaître. Ces enfants-là ont eu, en leurs derniers jours, des millions de parents de cœur qui pleuraient leur sort. Les survivants continuent, à ce jour, à souffrir d'un sentiment de culpabilité pour avoir échappé à la mort, tandis que tant de leurs camarades, comme eux en route vers une destination de rêve, ont disparu, engloutis dans les eaux froides et profondes, leurs jeunes existences gâchées avant d'avoir vraiment commencé. Peu après 13 heures, finalement, le Séoul avait totalement disparu, engloutissant avec lui des centaines de victimes dans un effroyable silence entendu jusqu'au bout du monde, les flots éteignant à jamais les flammes de ces vies innocentes et étouffant les derniers cris des martyrs de cette macabre tragédie. Il n'était pas question ici, comme dans le cas du Titanic, d'un naufrage dans les eaux traîtres et glacées de la partie boréale de l'immensité de l'Atlantique Nord en pleine nuit, avec des réglementations et équipements d'un autre âge et loin de tout secours. Au contraire, cela se déroulait tout près des côtes d'un des pays les plus technologiquement avancés, aux services publics en général de tout premier ordre, en plein jour de printemps à la météo clémente, au XXIe siècle et en direct. De plus, pour l'homme de la rue, il ne s'agissait pas là d'une élite sociale voyageante oisivement avec champagne, petits fours et orchestre, comme beaucoup à bord du Titanic, mais de gens et d'enfants du peuple en qui chacun pouvait se reconnaître et dont le meurtre, car c'en était bel et bien un, a balafré la psyché et souillé la fierté nationale. Tandis que tant de victimes se noyaient, le pays suffoqué. En ces moments de tragédie extraordinaire, le peuple aurait eu besoin d'une voix d'autorité qui annonce qu'elle est aux commandes et qui apaise, qui offre les condoléances de la nation aux familles éplorées, qui demande du courage dans l'épreuve, qui assure que tout est mis en œuvre pour secourir le plus grand nombre, pour promettre une enquête et un châtiment des responsables, une voix qui annonce que les services de l'État sont mobilisés, une voix, finalement, qui affirme que cela ne se reproduira plus jamais. Toutefois, et inexplicablement, Park Geun-hye, la présidente de l'époque, est restée dans ses appartements, même après avoir été mise au fait du drame en cours. Elle n'a même pas daigné se rendre à son bureau, demeurant également absente de l'œil du public pendant plusieurs heures interminables, alors que tout le pays, égaré et haletant, écumé de rage impuissante et de désespoir. Cette déréliction de ses devoirs lui coûtera cher. C'est donc un crime de lucre, de corruption, de désorganisation et de lâcheté qui a coûté la vie à 304 personnes qui n'auraient jamais dû disparaître en ce beau jour de printemps 2014. Parmi ces victimes, 250 étaient des lycéens en voyage scolaire vers l'île paradisiaque de Jeju. Les répercussions ont été nombreuses et ont marqué le pays comme peu d'événements ces dernières décennies. Les conséquences. Ce qui était une catastrophe humaine a vite évolué en ouragan médiatique, politique et judiciaire. Sur le plan judiciaire, le capitaine et les 14 autres membres d'équipage ont été arrêtés quelques jours après la tragédie, dont trois sous des chefs d'inculpation d'homicide par négligence, pouvant résulter en une condamnation à la peine capitale. Le PDG et quatre autres membres du conseil d'administration de la compagnie opérant le Sewol sont également arrêtés le mois suivant. Un mandat a été émis contre le propriétaire du ferry en fuite. Son corps sans vie aurait finalement été retrouvé à la fin mai. Nous utilisons ici le conditionnel sciemment car une autopsie a identifié le corps, mais certains doutent de cette conclusion. Son fils a par la suite été condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds et abus de confiance. Deux membres de l'autorité de régulation et de contrôle ont également été poursuivis. Des jugements de première instance et les appels qui s'en sont suivis. le capitaine a été condamné à une peine à perpétuité. Il était le seul cas à obtenir une peine alourdie en appel, tandis que les autres membres d'équipage ont finalement écopé de peines de prison réduites, allant seulement jusqu'à 12 ans. Le PDG de la compagnie opérant le bateau, lui, a reçu une peine de 10 ans et l'équivalent de 1500 euros d'amende. Il s'agit bien ici de 1500 euros. L'une des conséquences les plus immédiates a été la démission du Premier ministre, Zheng Hongwen, dans les jours qui ont suivi. Cependant, dans un régime présidentiel, à l'image de la France, cette démission n'avait pas grand poids, a été perçue comme purement symbolique. Les gardes-côtes ont été dissous, leurs prérogatives d'enquête transférées à l'agence de police nationale et leurs activités de sauvetage au département pour la sécurité nationale. Le président suivant, Moon Jae-in, fait amusant, son nom peut vouloir dire personne à problème, a par la suite réinstitué le service des gardes-côtes en 2017. Le peuple, outragé de la mauvaise organisation et coordination des secours, en plus de la faiblesse des réglementations de sécurité et de leur respect tout relatif, a exigé des explications. Cette culture du profit à tout prix, problème récurrent en Corée, a montré en cette occasion la valeur dérisoire que pouvaient avoir des vies humaines face aux pires dérives d'un capitalisme sauvage. 2 jours après ce naufrage et terrassé par un sentiment de culpabilité, le directeur du lycée auquel appartenaient les victimes a laissé une longue lettre d'excuses avant de se pendre. Au même moment, un immense mouvement de deuil, de soutien moral aux familles des victimes et, par la suite, de dénonciation des manquements, de l'incompétence, de la culture du secret et de corruption du gouvernement s'est mis en place, symbolisé par le port de ruban jaune. Il réclamait également une commission d'enquête indépendante sur les circonstances et responsabilités du drame qui venait de secouer le pays. En Corée, ces rubans avaient déjà été portés par les mouvements pro-démocratiques dans les années 80, après des massacres d'étudiants par les forces de l'ordre. Les rubans jaunes ont alors commencé à décorer multitude d'objets du quotidien. De plus, les réseaux sociaux de cette société si avancée technologiquement ont partagé, viralement comme on dit aujourd'hui, des images virtuelles du symbole de ce mouvement social et politique. En octobre de cette année-là, ce courant politique s'est cristallisé en des manifestations hebdomadaires de très grande ampleur pendant lesquelles les participants portaient des bougies ou allumaient leur téléphone. Elles se sont, dans un premier temps, tenues près du palais présidentiel de la Maison Bleue pendant 2 mois et demi, avant de se concentrer pendant 17 semaines à Gwanghwamun, pas très loin de là, qui offrait un large espace allant jusqu'à la place de la mairie de Séoul. Le maire de l'époque, adversaire politique de la présidente, ne voyait pas ce mouvement d'un mauvais œil et lui accordait les autorisations nécessaires. Pour mieux connaître le parcours de la présidente et de ce qu'elle avait pu représenter pour son peuple, signalons que son père, Park Chung-hee, avait été président intérimaire en 1962, après un coup d'État militaire en 1961, puis président en 1963 jusqu'à son assassinat en 1979, à l'intérieur même du palais présidentiel, par le propre chef de la CIA coréenne. À son actif toutefois, la Corée a connu une croissance ahurissante pendant ses mandats successifs. Il est aussi à noter que la mère de la présidente avait également été tuée lors d'une précédente tentative d'assassinat sur le père de cette dernière en 1974 par un agent du Nord, malgré la réaction éclair d'un garde du corps particulièrement courageux. Park Chung-hee avait d'ailleurs fini son discours pendant que sa femme était transportée à l'hôpital où elle allait succomber. On peut trouver une vidéo sur YouTube capturant ce moment tragique. Park Gun-hee elle-même été victime d'une attaque au rasoir lors d'une réunion électorale en 2006. Que faisait donc la présidente pendant 7 longues heures lors de cette journée du naufrage alors que le pays entier l'attendait? En ce jour maudit, elle était prosaïquement occupée avec sa coiffeuse et recevait son amie et confidente, la sulfureuse Che Soon-chil, fausse chamane et surnommée la Rasputine coréenne, dont le père avait dirigé une secte religieuse comme il en existe tant en Corée. Après que l'entretien entre la présidente et sa confidente a été révélé, cette dernière a alors fait pression sur les autorités judiciaires, arguant de sa proximité avec son amie, qu'elle poursuive en diffamation le journaliste responsable de l'article. Face à cette pression populaire, l'enquête sur le désastre, diligentée par le National Intelligence Service, successeur de la KCIA depuis 1999, qui gère le renseignement intérieur aussi bien qu'extérieur, et dont les attributions couvrent donc les rôles de la DGSI et DGSE françaises réunies, mais dont les méthodes rappellent parfois celles des barbouzes de la DST d'antan, a sorti un rapport qui semblait se concentrer sur les conséquences politiques des manifestations anti-gouvernementales plutôt que sur les causes et responsabilités du naufrage. Il a par ailleurs été démontré que ce service avait auparavant aidé à l'élection de Park Geun-hye, une conservatrice, par des actions de manipulation de l'opinion publique et n'était donc pas forcément désireux ni en position de manifester une grande impartialité. Rappelons que l'adversaire des faits lors de l'élection de la présidente en 2012 était un certain Moon Jae-in, le président de 2017 à 2022. Le chef de ce service de renseignement a plus tard été condamné à 3 ans de prison pour l'aide illégale que son service avait donc prodiguée lors de l'élection présidentielle. Toujours est-il que ce rapport se concentrait essentiellement sur les moyens à mettre en œuvre afin de contrôler les mouvements populaires et politiques d'opposition. Il a aussi été prouvé par la suite que ce service a, de nouveau, organisé une manœuvre d'influence psychologique à destination de l'opinion publique pour tenter de la désolidariser du mouvement d'opposition réclamant toute la lumière sur le naufrage du Sewol. Ce service de renseignement a argué, entre autres, qu'il ne s'agissait que d'un simple accident de ferry et que les familles des victimes ne poursuivaient leurs actions que par appât du gain. Il s'en est suivi qu'une petite partie de l'opinion publique s'est en effet retournée contre elle. Suite à la révélation de la rencontre entre la présidente et sa protégée, le chef de cabinet et 2 agents du renseignement de haut rang ont été inculpés l'année suivante pour avoir falsifié, par une désignation officielle abusive et afin de les cacher au public, les documents sur l'emploi du temps de la présidente en ce jour fatal. Après le dévoilement du rôle d'éminence grise joué par Che Soon-chil auprès de la présidente, des accusations de corruption et de trafic d'influence ont émergé. Elle aurait en effet exercé des pressions sur la très prestigieuse université de Iwa pour y faire admettre sa fille, devenue par la suite assistante parlementaire de la présidente lorsque celle-ci était députée, et lui accorder des notes de faveur. Le professeur a d'ailleurs passé quelque temps en prison pour avoir fait ses dissertations à sa place. Che Soon-chil avait également extorqué plusieurs dizaines de millions de dollars à de nombreux grands groupes industriels coréens, dont Lotte et Samsung, usant de sa proximité avec la présidente. Nous pourrions continuer à citer les exactions nombreuses de la présidente, mais cela sortirait du cadre de cet article sur le naufrage du Sewol. Il serait en effet possible de longuement évoquer les millions de dollars illégalement transférés de l'agence de renseignement à ses coffres ou la tenue d'une liste noire d'opposants et d'artistes soutenant les manifestations, etc. Il n'en reste pas moins que Park Geun-hye s'est finalement vu démise de ses fonctions par l'Assemblée nationale le 9 décembre de cette même année pour corruption, abus de pouvoir et divulgation de documents officiels. jugée le 6 avril 2018. Elle a été condamnée à 24 ans de prison, sentence réduite à 20 ans après appel et confirmée par la Cour suprême en 2020. Peu avant, en février 2018, Che Soon-sil, quant à elle, avait été reconnue coupable d'abus de pouvoir, corruption et ingérence dans les affaires gouvernementales et condamnée à 20 ans de prison et une amende de plus de 16 millions de dollars. Pour lui avoir versé des pots de vin, le dirigeant du groupe Lotte s'est vu condamné à 2 ans et demi de prison pour corruption. Pareillement accusé, le vice-président de Samsung Electronics a écopé de la même peine en appel, réduite de moitié par rapport à sa condamnation initiale. Le Korea Times du 15 mai 2021 a publié un sondage selon lequel 6 Coréens sur 10 n'étaient pas opposés à sa libération anticipée, finalement survenue à l'été 2021, alors qu'il devrait purger sa peine jusqu'en juillet 2022. Il avait, en effet, versé des pots de vin à Che Soon-sil afin d'assurer une transition de pouvoir plus facile lorsqu'il était sur le point de prendre la direction de ce groupe. Il visait également à s'attirer les faveurs du gouvernement pour faire accepter ses projets de restructuration de la compagnie. En ce qui concerne les familles des victimes, elles se sentent toujours dépourvues de réponses précises quant aux causes exactes du naufrage. Aujourd'hui, de nouvelles réglementations sont en place avec des vérifications renforcées et des punitions plus sévères. Les inspecteurs de sécurité qui travaillaient pour une organisation contrôlée par les armateurs dépendent à présent du gouvernement et ont vu leur nombre doubler. Cependant, ils ne disposent toujours pas de tous les équipements dont ils auraient besoin, notamment pour le pesage des camions. Il leur est désormais imposé de devoir examiner les navires depuis l'intérieur et non plus seulement depuis le quai, pratique non officielle mais assez courante jusque-là. Des mesures plus strictes encore seraient nécessaires, mais toujours rejetées à cause de leur coût trop élevé qui réduirait les bénéfices de cette industrie. Et hélas, la culture du profit à tout prix est toujours vivante et la triche et la corruption toujours bel et bien présente. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Merci aussi à la plateforme Pixabay.com et à Music Unlimited pour le crédit musique. Merci enfin à mes amis auteurs et autrices et à l'association Séoul Accueil que vous pouvez retrouver sur séoulaccueil.com. Sur ce site, vous pourrez consulter la version numérique du Petit Écotier. Si vous avez un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, si vous voulez participer à ce podcast, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente semaine, merci encore et au week-end prochain!